Écho d'économie.
À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à l'écoute de Écho d'économie sur Radio Capi. En voici les grandes articulations. La DGDA fait une mise au point pour couper court à la situation des agents dits temporaires de manière générale et de manière particulière de ceux de la province du Congo central. Dans un communiqué, la DGDA dit avoir mis fin à l'utilisation des personnes dites temporaires depuis le 9 août 2005. Les détails dans un instant. Le délabrement de la route Kalemie-Kongolo-Nyunzu ne favorise plus l'acheminement des marchandises à Kisengo dans le territoire de Nyunzu. Conséquence directe, les prix des denrées de grande consommation ont pris l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons Écho d'économie par cette mise au point de la Direction générale des douanes et accises. Dans un communiqué, la DGDA s'indigne des informations véhiculées à travers les réseaux sociaux au sujet de la non-régularisation de la situation administrative des personnes dites temporaires de la DGDA Congo central, précisément au poste douanier de Loufou. Nous en parlons avec vous, Jocelyne Moussao. Vous avez lu pour nous ce communiqué de la DGDA.
Oui, Daniel. Dans son communiqué, la DGDA explique d'abord le contexte dans lequel est né le statut de temporaire après la guerre de 98 en vue de réunifier les différentes administrations de douane créées par les différents groupes armés, une commission dénommée Commission de réunification des entreprises publiques regroupant les responsables de la DGDA et les responsables des différentes administrations de douane créées par les mouvements armés a été mise en place. C'est dans ce cadre que la situation administrative des personnes œuvrant à la douane sans matricule a été régularisée, même dans les territoires contrôlés par le gouvernement de la République à l'époque.
Jocelyne, et depuis le 9 août 2005, la DGDA dit avoir mis fin à l'utilisation des personnes dites temporaires.
Oui, Daniel, la situation de 1253 personnes dites temporaires avait été régularisée, dont 294 à la DGDA Congo central.
Il y en a aussi des agents qui se disent être des temporaires de la DGDA affectés au poste de Loufou dans le Congo central. Qu'en est-il de leur situation?
Selon la DGDA, il s'agit des personnes mal intentionnées à la recherche d'un emploi qui instrumentalisent les autorités du pays sous prétexte qu'elles seraient marginalisées. Le phénomène sévit dans toutes les provinces du pays et cela à chaque fois qu'il y a changement des autorités à la tête de cette régie financière.
Merci Jocelyne pour toutes ces informations.
Merci Daniel Tambizoni.
Autre chose, et dans la province du Tanganyika, nous parlons de la hausse des prix des biens de première nécessité ces derniers temps. Ça se passe dans la localité de Kisengo, en territoire de Nyunzu. La nouvelle société civile de Kisengo parle d'une hausse consécutive au délabrement très avancé de la route Kalemie-Kongolo-Nyunzu, ce qui ne facilite plus l'acheminement des marchandises. D'autres détails avec vous, Paul Munanga.
Un bidon d'huile de 20 litres qui s'est vendu à 45 000 francs congolais se négocie actuellement à 125 000 francs. Un litre d'essence qui coûtait 5 000 francs congolais se vend à 10 000 francs. En outre, pour faire moudre une quantité de maïs dans un bassin, le prix est de 8 000 francs congolais. Mais auparavant, il était à 2 500 francs, indique le coordonnateur de la nouvelle société civile de Kisengo. Jean-Pierre Bwanamuzuri Kasongo souligne qu'en cette période pluvieuse, les camions transportant des marchandises en provenance de Kalemie ou de Kongolo n'accèdent plus à Kisengo. D'autres sources rapportent que seules les motos alimentent actuellement cette localité en biens de première nécessité, mais ces engins atteignent difficilement cette contrée. C'est le cas notamment de l'huile de palme qui provient de Kongolo ou du carburant en provenance de Kalemie. La nouvelle société civile demande aux autorités de trouver une solution à ces problèmes. Pour rappel, Kisengo est une localité située à 65 km au nord de Nyunzu. On y trouve aussi des sites miniers d'exploitation artisanale du coltan. Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et nous retrouvons Jocelyne Moussao pour parler cette fois-ci de l'appel du délégué général à la francophonie en République démocratique du Congo. Il annonce le lancement de l'appel à candidature pour le financement de petits projets destinés aux femmes en situation de pauvreté et de vulnérabilité, cela dans le cadre du fonds dénommé « La francophonie avec elle ».
Cet appel à candidature s'adresse aux organisations de la société civile établies dans des États et gouvernements membres de la francophonie situés en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, dans l'océan Indien, en Afrique du Nord, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes. La RDC étant membre de plein droit de l'OIF, les organisations congolaises de la société civile sont éligibles à cette opportunité qui vise à financer des actions de terrain mises en œuvre par des organisations de la société civile francophone conformément à la programmation 2024-2027 adoptée lors de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue les 4 et 5 novembre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Le fonds La francophonie avec elle vise à améliorer la participation et l'inclusion des femmes à la vie économique et sociale. Il vise également à améliorer l'accès des femmes aux formations professionnelles et à encourager les femmes à entreprendre des activités génératrices des revenus. Les détails ainsi que d'autres informations pratiques concernant cet appel à projet sont disponibles sur le site de l'OIF www.francophonie.org. Le délégué général à la francophonie en RDC encourage les organisations congolaises de la société civile à tirer profit de cette opportunité et à faire acte des candidatures avant le 30 mai 2024 à travers le site de l'OIF uniquement.
Écho d'économie.
Place à présent à l'invité de l'économie, et l'invité de l'économie ce soir est le professeur Jean-Marie Kanda de la faculté de polytechnique de l'université de Lubumbashi. Il est aussi administrateur et membre du conseil d'administration du conseil congolais et de la batterie. Il revient sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire pour la production des batteries électriques en RDC. Le professeur Jean-Marie Kanda s'entretient avec Jean Gandou.
Professeur Jean-Marie Kanda, bonjour.
Bonjour.
Une année après la nomination des membres du Conseil congolais de la batterie, où en est-on ce jour?
Toute l'année 2023 a été orientée sur l'installation du Conseil congolais de la batterie, l'élaboration de tous les documents administratifs de gestion et des orientations stratégiques et les lancements de quelques études qui pouvaient être considérées comme des aides à la décision, notamment une étude commandée par le Conseil congolais de la batterie à un bureau d'études congolais Bicotine. Au-delà de ça, avec le ministère de l'Industrie par le truchement de Monsieur le ministre Julien Paloukou et tous les partenaires techniques et financiers du ministère de Mines sur le projet du développement de la chaîne des valeurs des batteries, une autre étude a été commandée à Eurise sur le développement de la zone économique spéciale. Fort des conclusions de ces deux études-là et des documents internes des gestions, feuilles de route, plans stratégiques reposant sur le plan d'industrialisation de la RDC et des autres documents qui proviendraient des parties prenantes, le CCB a élaboré à ce jour quelques pistes de sa stratégie et du positionnement de la RDC sur le développement de la chaîne des valeurs, ce à quoi en 2024, le CCB va se déployer pour l'opérationnalisation et le lancement de certaines activités.
Est-ce qu'on peut connaître quelques-unes des pistes qui ont été élaborées?
La recommandation principale est de pouvoir aujourd'hui attirer ou des investissements pour garantir le raffinage des métaux qui sont produits en RDC et à ce jour principalement le cobalt. Le CCB va dans les jours qui suivent avoir des pourparlers avec les opérateurs miniers produisant le cobalt, avec Kisenge Manganèse, avec le Service géologique national du Congo pour explorer les potentiels sous le nickel et au-delà de ça avec l'entreprise générale du cobalt et au-delà de ça le positionnement et la localisation de la zone économique spéciale.
On a parlé d'une zone qui se situerait dans le territoire de Kipushi, dans le Katanga.
Pour des contraintes techniques, ça n'a pas pu se faire. Soit le foncier était sous le coup de quelques titulaires des permis d'études ou des permis de recherche. Eurise a pu visiter le site de Sakagna. Par rapport à leur étude, ils ont trouvé que le site de Sakagna ne répondait pas à certaines exigences de développement de la zone économique. La province du Haut-Katanga avait aussi attribué un site à 37 km de Lubumbashi sur la route Kasenga. Et ce site-là a été aussi momentanément mis de côté pour certaines contraintes parce qu'il y a un écosystème qu'il faille développer. Pour l'instant, d'après les conclusions de l'étude de Rise, il y a un site dans le Lualaba qui a été défini au regard du cobalt qui est produit, du projet du corridor de l'Obito, de l'accès au chemin de fer ou de l'intense activité minière qui se fait là-bas, les problèmes d'énergie ou d'infrastructure se posant à ce jour, le Lualaba paraît le site qui semble avoir un meilleur score en termes de choix d'un foncier où pourrait être érigé une zone économique spéciale.
C'est-à-dire que la première batterie n'est pas pour demain.
Investir déjà dans la construction d'une raffinerie prend du temps et au-delà de ça, une fois que la raffinerie est montée et que le métal raffiné a la qualité d'aller dans la fabrication de batteries se fait, donc il y a une autre étape de faire les matériaux actifs des cathodes et puis faire des précurseurs, élaborer des anodes, l'électrolyte, faire des cellules, les assembler, etc. Donc la batterie n'est pas pour demain. Au moment où les investissements se feront sur les constructions d'une ou de deux ou de trois raffineries, l'amélioration de la desserte énergétique devra aussi se faire. La construction des compétences en termes de main-d'œuvre se fera aussi. Et puis d'autres structures seront mises en place pour faciliter les investissements d'eux.
Est-ce qu'à ce jour, on peut dire qu'il y a une ruée des investisseurs vers ce projet?
Avec tous les efforts que fait la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le bureau de Yaoundé, ou ceux qui sont au bureau de Addis Abeba, des efforts sont faits de porter l'ambition de la RDC et beaucoup des pays et beaucoup d'opérateurs sont intéressés. À ce jour, je peux dire, pour ne parler que volet formation-recherche, Northvolt, qui est une des compagnies suédoises engagées dans la fabrication des batteries, a signé un MOU avec le Centre africain d'excellence pour les batteries, en accord avec le CCB. Des chercheurs sont présentement à Stockholm. Et puis au-delà de ça, n'oubliez pas que les États-Unis ont signé un accord cadre avec la RDC pour développer une chaîne d'approvisionnement en métaux critiques ou stratégiques, ça dépend. L'Union européenne aussi. Il y a un élan à venir comprendre déjà quelle est l'ambition, quels sont les besoins et où est-ce que les uns et les autres peuvent se situer. La question de la traçabilité, la question de la durabilité du projet, la question de la responsabilité dans l'exploitation même et la question du verdissement de l'exploitation minière et de la chaîne des valeurs de batterie sont au cœur. Je peux vous garantir qu'il y a une ruée vers ce projet.
Jean-Marie Kanda, je vous remercie.
Merci, Monsieur Jean Gandou.
Merci à vous, Messieurs Jean-Marie Kanda et Jean Gandou. Grand merci à vos chers auditeurs de nous avoir écoutés. Retrouvez au plaisir et en continu ce numéro Éco d'économie sur www.radiocapi.net.